Au Cap Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Au Cap Action, pourrons savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Au Cap Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Retenez qu'à la mise en onde, il y a Sylvain Baogueré, à la réalisation JR Lungembo et au micro Nicole Ngaka. Retenez également les numéros de téléphone pour participer directement à cette émission, le 081-070-2050 et le 081-890-63-94 pour faire vos témoignages. Le premier sujet, c'est quoi? C'est la journée mondiale du sida. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du sida. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bon de réagir à cet effet. Vous qui nous suivez partout au Congo, envoyez-nous déjà maintenant vos SMS au 081 070 2050. Allez, le temps pour nous d'avoir toutes vos réactions dans ce studio. Je vous invite à écouter cette chanson sélectionnée pour vous, pour nous, par J.R. Lungembo.
Pas. Il n'existe que des preuves d'amour.
Il Oko banga mona kana na yo no kite asika kana na ye ba ki sa ka du lor ko na lor na yo wa mo ne ni no tari po ko mi ta mo to si ko yo akara ki ka mo ai
Hola mwenye Hola mwenye bayama asala ya dunia mo ko ka fa se po na ye
Ça parle comme ça, et que cela bien pire. Kanangai komi degeke, pe kanakai na mwato na kalisa, na la vila na liete kambola, na indo la
Moto na ina na kona ina utia ya grandeur nature, cinema na ya preferi, yo ya demarche na ye, apeti ya sala, ojo akase toki ala mbile mei, On y a solo la vacance et toi qui peine la naïo Ize naïo, fouta bamba na boca batique la yoye Eza naïo, c'est au matin, on zete au ganga silema Mo amo, nenge ni no sari un poco, mi samo ton isiko yu a kanaki sa e mawai
Ola mweye, a komisa yo dinge A fala yo ninyo, o koma kuya de sanine
Bonjour, c'est Kelly Nagouya, ma soutienne. La mébo, bonjour, c'est une moque, oui, on a eu le bonheur. N'a ni à quoi que lui, n'a jamais le bonheur, n'a ni à l'infini.
Nako bomba yo mio se sokre a ba fara ouye Yala na dino yama yi esi dino ake
Dibari
103,5.
Et merci de nous suivre également ailleurs au Congo. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 1er décembre 2005. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous allons aborder différentes questions en rapport avec cette maladie, évidemment, la lutte menée en République démocratique du Congo pour y faire face. Pour commencer, nous allons nous pencher sur la question de l'accès au traitement antirétroviral. Savez-vous qu'en RDC, sur environ 3 millions de personnes vivant avec le VIH, au moins 300 000 d'entre elles sont dans un état qui nécessite réellement un traitement antirétroviral. Malheureusement, aujourd'hui, seul un tiers sur les 300 000 des personnes concernées y ont accès. Nous allons parler avec notre confrère Marcel Concou qui a fait une petite enquête à ce sujet. Il est là avec moi dans ce studio. Retenez que vous avez la possibilité de participer dans cette émission. Nous appelons bien sûr au 081 070 2050 pour nous envoyer vos SMS et également en nous appelant au 081 890 63 94 pour faire vos témoignages. Nous aurons également dans ce studio plusieurs invités qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Donc vraiment, profitez-en pour réagir. En attendant, nous recevons Marcel Concou qui est là en face de moi. Bonjour Marcel.
Bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Marcel, vous avez fait une grande enquête sur ce problème, sur aujourd'hui, je dirais, l'étendue du problème du sida. Qu'est-ce qui explique que seulement quelques dizaines ou encore, je dirais, le tiers sur les 300 000 des personnes concernées par le VIH-sida puissent avoir accès à ce traitement?
Nicole, il faut savoir que c'est déjà quelque chose, car il y a encore une année passée, seulement 5 000 y avaient accès. Mais aujourd'hui, grâce à l'appui du Fonds mondial de lutte contre le sida et d'autres partenaires internationaux, ce nombre a pu augmenter.
Donc là, nous parlons du traitement antirétroviral. Mais cet appui du Fonds mondial se passe comment, par exemple, au niveau des ONG?
C'est en fait un appui financier accordé de manière à permettre, par exemple, de disponibiliser d'assez de médicaments antirétroviraux pouvant permettre aux nécessiteux d'y accéder. Vous savez qu'actuellement, les antirétroviraux fournis par la firme indienne Cipla se vendent autour de 29 $ la cure mensuelle.
Et bien entendu, il n'est pas toujours évident que toutes ces personnes malades ou encore ces personnes vivant avec le sida puissent débourser une telle somme, donc 29 $ chaque mois.
C'est bien cela. Grâce donc à cet appui, certaines personnes peuvent y accéder gratuitement. Suivant le témoignage d'un patient malade de sida qui n'a eu qu'à payer les frais relatifs aux examens paramédicaux, mais son traitement antirétroviral est gratuit. On l'écoute.
Bon, dès le premier jour, tant on a bandagi, tant on a rien qui awa, tout ce qui droit ou est singuli. Parti awa na, donc si na ya odjara traitement na nga, jamais la demi ça ta un cas na nga et na zwa kaga parti a. Puis ça rambo monte mais va qui signe, la puis ça besoin c'est le rendez-vous. Bah on peut c'est le rendez-vous. Sauf que ça y a deux semaines, bah puis y a deux semaines, y a un mois, bah puis y a un mois. Ce que si lui après c'est le rendez-vous ou il y a un rendez-vous on a soit au bagisha babagish dengwa et d'autres personnes magana dengwa futahambongo dieu.
Ok, donc là c'était un jeune homme qui nous expliquait que lui avait accès gratuitement au traitement antirétroviral. Ce n'est pas le cas pour tous ceux qui nous suivent ici au Congo qui sont atteints aussi du sida. Des fois il y en a qui déboursent, même beaucoup déboursent, beaucoup de montants pour avoir accès à ce traitement antirétroviral. Vous savez qu'on va faire le tour de la RDC avec cette question-là parce que ça concerne aujourd'hui tous les Congolais. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa. Non. Raison pour laquelle, Marcel, si vous le permettez, on va aller dans un instant à Butembo pour retrouver une dame qui vit avec le VIH et qui va intervenir à partir de Butembo. Elle s'appelle Madame Kavira. Je vous invite tous vraiment à nous envoyer déjà maintenant vos SMS au 081 070 2050 ou à appeler carrément pour faire vos témoignages comme ce jeune homme au 081 890 63 94.
Okapi, c'est vous.
Nous allons essayer de retrouver, toujours dans le chapitre du sida, nous allons faire un tour du côté de Chicapa, une ville qui attire également pas mal de personnes pour l'exploitation du diamant. Mais il se fait également qu'il se pose, il faut le dire, pas mal de problèmes sur le comportement sexuel et la sensibilisation sur le VIH. On va suivre dans un instant l'entretien de notre consoeur Catherine Ngoï avec notre confrère de la radio communautaire Kilimandjaro depuis Chikapa. Et Catherine va s'entretenir avec Jules Boutou. Suivez.
Jules, on sait que Chikapa est l'une des villes du pays qui attire beaucoup de personnes, notamment pour l'exploitation du diamant. Est-ce que cette activité a un impact sur l'activité sexuelle dans cette ville?
Chikapa, c'est une ville cosmopolite. Hein? C'est que Chikapa attire plus le monde venant d'ailleurs, toutes les provinces. C'est que le Chikapa, le Vendée, c'est juste un carrefour. Et ce monde-là influe sur l'activité sexuelle. Parce que les uns viennent de l'Angola, les autres du Bandundu, il y a une grande partie qui vient de Kinshasa. Alors, on se rencontre ici et ça joue nécessairement sur l'activité sexuelle.
Peut-on savoir ce qu'il en est de l'usage du préservatif dans la ville de Chikapa?
Le préservatif est connu à Chikapa, surtout le préservatif masculin. Les gens s'en servent, mais cependant, ils vont différencier les couches. Sans les couches qui se servent toujours de préservatif sont celles-là qui connaissent qu'il y a réellement la maladie quand on ne se protège pas. Mais il y a des couches, par exemple là qu'on appelle les banamailles. Facilement, on embarque sans préservatif, c'est foutu, hein, quelque part. Et il y a une différence entre ceux-là qui utilisent des préservatifs et ceux qui n'en utilisent pas. Et surtout les préservatifs masculins, je dis bien. Pour les préservatifs féminins, c'est très connu ici à Chikapa. Et d'ailleurs, nombreuses femmes n'en veulent pas.
Est-il des ONG qui luttent pour la sensibilisation sur l'utilisation du préservatif pour se protéger contre le sida?
Il y en a ici, mais disons, pour ne citer qu'une seule, il y a l'ONG appelée SEMA, c'est-à-dire Centre Médical d'Accueil et Réinsertion. Et cette ONG est utilisée d'ailleurs dans la distribution des préservatifs masculins. Mais elle a été plutôt un problème d'approvisionnement. Et depuis 3 ans, c'est presque inactif, hein, cette activité-là de distribution. Il y a aussi une organisation, parce que vous savez, Chikapa, c'est une ville naissante. Il y a la coordination provinciale des luttes contre le sida, qui est en train de mettre sur pied une coordination urbaine de lutte contre le sida ici à Chikapa. Alors, au niveau de la ville, on est au niveau de création de clubs de jeunes, des ONG pour donner un peu du punch depuis que l'autre l'a failli. C'est que quelque part, on est à l'état embryonnaire dans la distribution ou dans la lutte contre le sida. Vous imaginez la coordination urbaine de lutte contre le sida ici à Chikapa et au niveau de la sensibilisation. Il n'a pas encore commencé la distribution de préservatifs.
Merci beaucoup, Jules Boutou.
Oui, merci beaucoup.
Mama Joe, only
Voilà, vous savez que nous aurons une heure d'antenne avec vous pour parler aujourd'hui du sida. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent à ce sujet. Vous êtes tous les bienvenus. Envoyez-nous tout simplement vos SMS au 081 070 et 2050. Notamment Monsieur Mawesi qui nous appelle, qui nous a appelé, qui envoie un SMS et qui dit « Cette journée doit nous rappeler que les conséquences de nos actes posés en quelques minutes peuvent nous être fatales pour la vie. » Ça, c'est la réaction de Mawesi. Il y a aussi Samy qui nous suit depuis Mbandaka et qui nous dit « Est-ce que le fait de dépister le sida chez une personne PVV, n'est-ce pas là le tuer ?» C'est son point de vue. On pourra peut-être poser la question de Samy à un de nos invités qui va bientôt être là. Et il y a aussi un autre auditeur qui nous suit depuis Matadi, il s'appelle Jeff Delphin Kouba, et il nous dit « Un des moyens de lutter contre le sida, c'est de supprimer les bars et autres boîtes de nuit qui favorisent les contacts sexuels. » C'est le point de vue de Jeff, peut-être que ça pourrait aussi contribuer, à diminuer l'étendue des dégâts concernant le sida. C'est bien de continuer à voir vos SMS dans ce studio, car c'est seulement avec vous qu'on peut aller de l'avant, c'est seulement avec vous qu'on peut réellement trouver des solutions. Je vais lire également d'autres réactions qui continuent à arriver dans ce studio. C'est bien d'envoyer les SMS, continuez à le faire. En attendant, je vais recevoir finalement Madame Kavira, qui est maintenant en ligne. Je vous rappelle que Madame Kavira vit avec le VIH et elle va intervenir à partir de Butembo. Bonjour Madame Kavira.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous savons que vous êtes une personne vivant avec le VIH-Sida. Mais ce serait bien de dire aux auditeurs, c'est depuis quand que vous vivez avec le sida et c'est quand exactement que vous avez eu, je dirais, cette occasion d'être exposé avec le virus du sida?
Il y a 2 ans que je l'ai fait.
Il y a 2 ans que vous le savez. Est-ce que vous pourrez peut-être témoigner aux auditeurs, leur dire exactement dans quelles circonstances vous avez eu à être exposé au virus du sida?
Bon, c'est grâce à l'infidélité que je peux dire que j'ai été contaminée.
Grâce à l'infidélité. Et aujourd'hui, comment vivez-vous votre état de séropositive?
Bon, nous sommes engagés par le groupe anti-sida de Butembo. Ils nous engagent très bien moralement et spirituellement. Grâce à cette assistance, nous sommes sans souci. Nous vivons et nous ne savons plus, nous ne passons plus à la mort.
Vous ne pensez plus à la mort. Est-ce que vous avez aussi, je dirais, droit au traitement antirétroviral?
Non, jusqu'à là, pas encore.
Et pourquoi?
Bon, on ne sait pas. Ce ne sont pas encore disponibles.
C'est pas encore disponible, mais sinon, vous pourriez avoir également droit à ce traitement, si c'était disponible.
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement pour cela? Est-ce qu'ils vous ont dit que ça coûtait trop cher? Est-ce qu'ils vous ont dit que c'était pas qu'on ne le trouvait pas là-bas à Butembo? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement, ceux qui vous encadrent?
Bon, nous vivons, on nous donne chaque fois de la nourriture équilibrée chaque semaine, et nous, le TVV, ils nous aident avec des médicaments à cas de petits opportunistes.
Et comment menez-vous aujourd'hui votre vie? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des enfants?
Bon, j'ai 4 enfants. Je suis une infirmière dans une pharmacie ici à Butembo.
Vous avez 4 enfants et vous exercez le métier d'infirmière. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à exercer ce métier à Butembo?
Oui.
Et vous n'êtes pas malade? Vous n'avez pas de problème pour exercer votre métier?
Jusqu'à là, je ne suis pas encore malade, mais il y a mon mari qui a des troubles mentaux.
Ah, donc vous vivez toujours avec votre mari qui a accepté votre état de séropositive?
Oui, nous sommes ensemble.
Ah, et tous les deux vous êtes atteints?
Oui.
Et comment, je dirais, les personnes qui vivent avec vous, notamment les autres habitants de votre quartier, par exemple, est-ce qu'ils connaissent, par exemple, que vous êtes atteint dans votre couple?
Bon, je ne sais pas s'ils le savent, mais grâce au trouble mental du mari, ils le soupçonnent.
Ils le soupçonnent. Alors, que diriez-vous aux autres personnes qui, comme vous, sont, je dirais, vivent avec le sida et pensent que tout est fini pour eux?
Bon, je peux dire qu'ils... Je vais les encourager de faire leur dépistage pour qu'ils soient aussi engagés dans notre groupe. Nous sommes un grand groupe de plus de 50 personnes. Nous sommes en train de scolariser nos enfants. Ils nous aident avec la scolarisation, avec des uniformes aussi pour nos enfants.
Donc ils vous donnent un peu de moyens pour continuer à vivre avec vos enfants et financent même les frais d'études de vos enfants?
Pardon?
Oui, donc vous voulez dire que ce groupe qui vous assiste vous donne un peu de moyens pour envoyer vos enfants à l'école qui vous assiste?
Oui, mais pour ce trimestre, ils ont déjà payé le minerval pour tous nos enfants, tous les groupes.
Vous êtes à 50 personnes. Ah, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le groupe qui vous encadre, vous et les autres personnes?
C'est le groupe anti-sida de Butembo.
Ok. En tout cas, merci beaucoup, Madame Kabira, d'avoir accepté de témoigner à notre micro.
Babou, Ana luna ka o si kaka, si lo pe mi bo mo ya joye. Ana luna ka tamo de maka, ka de maka jo mi fer lo pe zi.
Voilà, nous sommes toujours avec vous. Bonne nouvelle, nos invités viennent d'arriver. Donc, pour tous ceux qui ont envoyé leurs questions, vous aurez des réponses à vos questions. Continuez à envoyer hein, vos questions. Tous ceux-là qui aimeraient participer à cette émission, réellement, vous êtes les bienvenus. Envoyez vos SMS au 081 070 20 50. Vous savez qu'aujourd'hui, 1er décembre 2005, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, raison pour laquelle nous allons aborder différentes questions hein, en rapport avec cette maladie, évidemment, la lutte menée en RDC pour y faire face. Nous allons recevoir recevoir dans cette émission Dr José Kouvoula du PNMLS. J'ai du mal à le dire, hein, docteur, bonjour.
Bonjour Nicole.
C'est un vaste programme, hein, le PNMLS. Hein.
Ça dépend de ce que vous appelez vaste, mais un grand programme.
Et puis également dans ce studio, nous avons monsieur et madame, je commence par madame, madame et monsieur Bongo, qui sont dans ce studio avec nous. Et tous les deux sont des personnes vivant avec le VIH. Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour Monsieur Bongo.
Bonjour Madame Mouka.
Alors je vais commencer par m'adresser au couple, là, au couple Bongo qui sont là avec nous, des personnes vivant avec le VIH, qui ont bien voulu témoigner, qui ont bien voulu nous dire comment ils vivent, je dirais, leur état de séropositivité. C'est bien ça. Alors pour commencer, je m'adresse à Madame, à Mama, si vous le permettez. Vous vivez avec le VIH depuis combien de temps exactement?
Moi, depuis 1997.
Depuis 1997. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cela. Ils se disent, bon, quand on a le sida, quand on a le VIH, en fait, le virus, c'est vraiment difficile d'accepter cet état-là. Comment on vit, vous, à votre niveau, vous arrivez à accepter cet état de séropositivité? Mmh. C'est peut-être bien aussi de vous parler directement en lingala. Olo barata en lingala? Comment manquer, hein, parce que au moment où maman l'élo, bah tout le monde est basé n'importe quoi comprendre, si je puis le dire, comment est-ce que quoi y est bandé n'importe quoi ça là pour n'importe vivre penza etawana pour n'importe, est-ce que ça qui penza là le va facile?
C'est na e bandé les a qui facile, c'est quand il tangu na e comme y est na colanda na maté on a zaraki koyoka, ngamoko na e baki kozwali kamboana na en charge. Na yeba kinga moko ndenge ya kosala pe donc na zoki likambo ango penza na donc na bosa ina likambo ya kala ndenge azaki negative na iko to siko donc na mono ekomi via sika o na bandi na zisiko viwa na ifo na tambola malamu lolenge mutu oyo azali na mikrobe ya VIH akoki kotambola na komene une vie positive ndenge na zomene yango.
Mais le lune à côté là-haut, parce que même au Canada, c'est aussi qui nous traduit sida vraiment vineza et ça fini, hein. Puis c'est tout le monde aborditeur, bah au moins noté, on a qui toko, bon c'est ceux qui nous qui toko, nous autres on est là qui toko, donc on peut même pas croire qu'on a na loba mutimo qu'on a na VIH, qu'on a na sida. Na Canada c'est ça qui facilite pour nous les bandelés. Ce qu'on a dit c'est que on a accepté Tanayo, mais ça a pris quand même du temps, hein, pour que on a accepté Penza et Tawana. On sait qui nous dégénère.
Na sala ki elo moti donc tango ba yusa kanga na avant e sala ki nga pasi mingi kasi tango na yeko zwa bakisi na banjomi la bakisi na ngai na zola nda pe matea
oui pas au cas
na zola nda pe matea na ngai bien yango na komi na ngai bien na zo vivre na ngai normalement.
Donc, pour ceux-là qui nous suivent, hein, partout au Congo et qui ne comprennent peut-être pas le lingala, retenez que Mme Bongo nous a dit qu'elle vivait avec le sida depuis 1997 et qu'elle a accepté aujourd'hui cet état. Mais ça n'a pas été facile pour elle. Elle a dû suivre quelques enseignements. Monsieur le Sokolandi, lundi, Bamate, il y a un Olanda qui est en Penza, ou Api.
Bamate, il y a Mingi, il y a un Olanda qui est en 2003, Wapo, Naza, Bazinga prise en charge, la Médecins sans frontières. Na kabinda kuna nde na zwa matea penza ya kitoko vraiment elongola nga penza makanisi ya ko longola ke soki mtu azana VIH penza ezali liwa o wana ezali sou na mtu na ngai.
Donc je résume encore une fois ses propos. Elle a suivi les enseignements au niveau de Médecins sans frontières, au niveau de Kabinda, et aujourd'hui ça lui a permis carrément d'enlever tout ce qu'il y a dans la tête comme pensée négative, et elle a accepté de s'assumer. Elle est là, hein, avec son époux qui est monsieur Bongo. Monsieur Bongo, bonjour.
Bonjour madame.
En tout cas, tout à l'heure Tosolina Mama, maintenant on va parler avec vous, hein, l'époux. C'est bien quand même de nous raconter également comment vous vivez votre état de séropositivité.
Oui, pour moi, pour l'instant, je vis une situation tout à fait normale, mais je suis un cas un peu exceptionnel. Ça fait 17 ans que je vis avec le virus, mais à l'époque, en 1988, il n'y avait pas où aller. Ce qui fait qu'il fallait attendre la mort. J'ai attendu la mort ne venait pas. Et je suis tombé très malade en 2001. Et c'est seulement en 2003 qu'on m'a orienté vers les Médecins sans frontières.
Qui vous a orienté vers les Médecins sans frontières?
Bon, je dirais que c'est un heureux hasard. Il y a ma sœur aînée qui avait suivi une formation au niveau du centre Lin Longue chez le cardinal. Et m'a fait une note de manière à ce que je puisse me présenter au CTA.
Mm-hmm. Le CTA, c'est
Les Médecins Sans Frontières, CTA Kabinda.
Ok. Ouais. Merci, docteur, pour les précisions. Hein. Le centre de traitement ambulatoire au niveau de Kabinda, qui est géré par Médecins Sans Frontières. Hein.
C'est ça.
Oui, alors aujourd'hui, nous vous voyons, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes en pleine forme. J'imagine que vous vivez cela sans problème, votre état de séropositivité.
Oui, c'est exact, je vis sans problème. Il faut connaître, il faut avoir l'information. Suite aux enseignements reçus, et moi-même, j'ai poussé plus loin. J'ai commencé à essayer de sensibiliser d'autres personnes qui se cachaient encore. Ce qui fait que j'ai bénéficié de beaucoup de formations. Je suis animateur PVV chez les Médecins Sans Frontières. Et je vis ça normalement, il n'y a pas de problème.
Mmh. Vous avez dit que vous avez été malade, vous avez été pratiquement abandonné parce que vous avez eu comme, qui dirait, pratiquement peu d'informations à ce sujet, donc vous n'étiez pas suffisamment informé et il a fallu que vous soyez assisté par Médecins Sans Frontières pour être informé, mais également pour être assisté médicalement parlant parce que vous êtes tombé à un moment donné très malade. Hein.
Oui, c'est exact. C'est exact parce qu'en 2001, j'étais gravateur et on sait pas, j'étais dans des polycliniques. À travers ces polycliniques, on me bourrait des mélanges d'antibiotiques, des perfusions. Et c'est seulement en 2003, on m'a acheminé chez Médecins Sans Frontières. On a commencé par me suivre.
Mais vous avez eu droit à un traitement antirétroviral, peut-être, je ne sais pas.
Oui, mais seulement en 2004, parce que à cette époque-là, ils n'avaient pas encore des antirétroviraux. Ils ont commencé, je crois, au mois de décembre 2003. Et moi, je suis entré sous ARV le 7 mai 2004.
Mm-hmm. Et aujourd'hui, ça va?
Oui, ça va. Depuis le 7 mai, je suis plus jamais tombé malade.
Et parce que vous savez, si je vous pose toutes ces questions, les auditeurs qui nous suivent en ce moment vont se dire, mais comment lui arrive à témoigner sa séropositivité? Comment lui arrive à vivre cela sans problème? Et les autres, s'ils sont au courant, ils risquent de l'ignorer, ils risquent de ne plus lui adresser la parole, par exemple dans votre quartier. Est-ce que les gens savent que vous vivez avec le VIH?
Oui, je suis passé à la télévision à plusieurs reprises, dans d'autres radios aussi. Je crois que le PNMLS a organisé une grande émission télévisée, Opération Bottine, et c'est nous qui étions là à côté de PNMLS.
Mmh. Mais vous n'êtes pas écarté par les autres, vous n'êtes pas ignoré par les autres à cause de votre état.
Je crois que tout doit partir de son propre comportement. Moi-même, je me suis accepté. Du reste, j'ai perdu ma première épouse en 2003. Bon, à partir de là, moi-même, je me suis accepté et par réaction, parce que j'ai vécu pendant 14 ans dans l'ignorance et même je suis allé jusqu'à perdre mon épouse.
Mais aujourd'hui, vous êtes avec...
Oui, on va se marier samedi.
Ah donc, vous allez vous marier avec une deuxième épouse?
Oui, samedi.
Qui connaît, maman connaît votre état de...
Ah.
Oui, et maman a accepté cela.
Oui.
Donc, si je comprends bien aujourd'hui, ce n'est plus un problème de vivre avec une personne qui est séropositive. On a eu des problèmes, tu n'as pas papa Azali Ata, et des problèmes, tu.
Et quoi, des problèmes, tu. Il y a des PVV, il y a des PVV. Voilà, tu es concerné, 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 protégé. Pour se vivre.
Tout à fait. Alors, pour ceux-là qui ne comprennent pas le lingala, je vais résumer hein, les propos de maman Bongo. Elle nous a dit qu'elle aussi, c'est une personne vivant avec le sida. Et donc, elle était déjà atteinte avant de rencontrer son époux, son futur époux. Donc, pour elle et pour lui, ça ne pose aucun problème. Tout à l'heure, on pourra avoir des précisions avec le médecin à ce sujet, parce que bon, beaucoup d'entre vous se disent peut-être comment deux personnes vivant avec le sida, deux personnes PVV, peuvent vivre ensemble tout en étant malades. C'est difficile à comprendre. C'est le temps pour lequel le médecin est là pour répondre certainement à cette question. On va peut-être, avant de lire quelques SMS qui sont arrivés dans ce studio, donner la parole au médecin hein, qui est là avec nous, docteur José Kouvoulou. Kouvoula, excusez-moi, j'ai massacré votre prénom. Hein. On a suivi tout à l'heure le témoignage de monsieur et madame Bongo. Et toutes les deux personnes sont atteintes hein, du sida, sont des personnes vivant avec le virus, le VIH. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre cela. Comment aujourd'hui deux personnes vivant avec le VIH peuvent vivre et mener une vie normale ensemble?
Ok, je crois que c'est des incompréhensions qui ne se justifient pas. C'est des incompréhensions, au fait, basées sur la stigmatisation et la discrimination. Donc, ni plus ni moins. Deux personnes vivant avec le VIH, comment ils peuvent se marier? Qu'est-ce qui leur manque? Le sexe? Ou quoi? Parce que au-delà, c'est l'acte physique, hein, donc de l'acte de copulation. Donc, il faut qu'il y ait amour, j'espère qu'ils s'aiment, et qu'il faut que leurs organes génitaux soient en place. J'espère qu'ils ont les leurs. Alors, le problème se pose à quel niveau? Parce que l'amour, c'est un problème de choix délibéré. Ok? C'est-à-dire, quand des incompréhensions arrivent, c'est du genre, il y a 80 ans, comment un nègre peut épouser un blanc? Il y a un moment, on ne comprenait rien.
Oui, mais beaucoup vont se dire, mais il y a aussi les enfants qui vont arriver. Est-ce que deux personnes vivant avec le VIH peuvent avoir des enfants?
Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, madame?
Mais certainement qu'il faut un encadrement pour ça, un encadrement médical.
Mais c'est ça, nous allons... L'encadrement médical dans un mariage, d'abord, il faut le savoir, c'est pour tout le monde. Même vous et moi, en supposant que nous sommes séronégatifs, nous devons avoir un médecin qui nous suit, ça c'est logique. Peut-être pour les PVV, il en faudra un peu plus, ça c'est aussi clair.
C'est hein, bien d'être un peu plus clair là-dessus.
Oui, pour ne pas faire l'amalgame. C'est-à-dire que c'est deux personnes humaines portant des pathologies hein, qui ne sont pas héréditaires, mais des pathologies transmissibles qu'on est en voie de le maîtriser maintenant. Donc, ils connaîtront leurs actes de copulation normalement avec des conseils de médecins, avec des conseils de médecins qui vont les suivre d'abord biologiquement pour voir sur certains paramètres clés tels que la charge virale, quelle est la quantité de virus qu'on essaie de retrouver encore dans leur sang. Et par rapport à ça, les médecins peuvent orienter des pratiques sexuelles qui peuvent être, par rapport à leur séropositivité, les pratiques sexuelles à moindre risque encore. Donc là, nous entrons encore dans un deuxième diapason, parce que le moindre risque, on le dit souvent...
Les pratiques sexuelles à moindre risque. Bon, beaucoup auront du mal à comprendre cela exactement. C'est bien d'être encore plus clair.
C'est-à-dire, il faut dire ceci. Deux PVV, quand elles s'unissent, en principe, on ne craint pas l'infection, mais on peut craindre la surinfection. Parce qu'en présence du VIH-Sida, vous avez l'infection, d'abord le virus est en vous, et vous avez la surinfection, donc quelqu'un qui est infecté, qui continue à s'infecter. Hein? Donc ça c'est la surinfection. Donc en présence de deux personnes vivant avec le VIH, ce que vous craignez c'est la surinfection.
Est-ce que les personnes vivant avec le VIH-Sida, ça c'est pour répondre à la question de Sylvie depuis Ouvira, peuvent finalement mettre au monde?
Si.
Sans problème. Vous avez déjà eu des cas?
Si.
Qui ont mis au monde des enfants qui continuent à vivre et qui sont...
Normal.
Qui n'ont pas le VIH, qui n'ont pas le virus.
Normal. Une dame séropositive a la probabilité, donc c'est 1 sur 3, la probabilité de mettre un enfant séropositif. Donc c'est-à-dire, déjà 2 sur 3, c'est des enfants sains en termes de probabilité. Alors si cette dame-là suit la PTM, la prévention de la transmission mère et enfant, où on la met sous ARV selon un protocole donné. Donc, la probabilité de faire un enfant séropositif baisse encore, de 1 en 5, donc autour de 20%, si pas moins.
Vous avez employé un terme qui peut-être n'est pas très connu pour les auditeurs, PTME, ça veut dire quoi?
La prévention de la transmission mère-enfant du VIH. P, prévention, transmission. M, mère et enfant.
Mais il faudrait que toutes les femmes séropositives puissent avoir droit à ce traitement. Est-ce que c'est le cas pour les hôpitaux?
Alors maintenant, en RDC, je me rappelle, à l'époque, j'étais à la GTZ, ça a commencé avec la maternité de Kinshasa, puis Mbinza, et c'est en extension vraiment au niveau du pays.
Là, c'est pour la ville de Kinshasa?
Non, mais maintenant, même plusieurs provinces ont des services PTME, à Bukavu, à Kisangani. Bon, ça ne couvre pas l'ensemble du pays, hein, ça c'est... Loin de là.
Donc, docteur José, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent en ce moment et qui réagissent en fonction de vos propos.
C'est pas un problème.
Et notamment un auditeur de Kananga qui s'appelle Clément Toudi et qui nous dit « Que ferait le jeune séropositif de 28 ans pour se marier et avoir des enfants ?» Vous avez dit qu'il faut qu'ils soient encadrés et
D'abord encadrés médicalement,
oui.
Ça c'est très clair, un suivi de proximité, et forcément, psychologiquement aussi, parce que nous devons nous dire que ça ne doit pas être très, très facile. Donc, oui. Ne simplifions pas les choses non plus. Hein, donc, et spirituellement, au besoin, pourquoi pas, parce que la dimension homme, c'est toujours corps, âme et esprit.
Certainement, donc, certainement. La RDC manque d'institutions stables, permanentes et responsables. La misère quotidienne de la population, l'insécurité sont aussi les causes du sida. Okay. Ça, c'est le point de vue d'un auditeur. Je crois que vous êtes d'accord avec cet
tout
auditeur.
À fait,
hein.
Tout à fait d'accord.
Alors, comment le test se paye dans certains centres, alors que c'est gratuit ailleurs? Ça, c'est pour le test du sida, je crois.
Oui.
Ça, c'est Anderson qui nous pose la question depuis Nataville.
Je crois que la question est très bien posée. Ça dépend des sources d'approvisionnement. Il y a d'autres, c'est des organisations caritatives qui leur apportent les tests. C'est clair, probablement c'est à vil prix qu'ils rendent ça. Mais d'autres achètent d'eux-mêmes. Bon, c'est aussi clair. Hein.
Je ne sais pas si on pourrait aller à Kasumbalesa hein, pour retrouver notre confrère, en fait, pour suivre le reportage que nous a fait notre confrère Paula Munanga, parce que vous savez qu'à Kasumbalesa, au niveau de la douane, 10 pères éducateurs participent depuis ce lundi à l'atelier de formation sur le dépistage volontaire du VIH-SIDA. Le séminaire est organisé par l'ONG Ensemble contre le SIDA ECO. SIDA en sigle avec l'appui financier du programme multisectoriel donc de vous-même, hein, PNMLS, et l'appui technique du programme national de lutte contre le SIDA. Cette formation est d'autant plus importante car la cité de Kasumbalesa est l'une des zones à haut risque. Elle est la porte d'entrée du Katanga pour les pays de l'Afrique australe où le taux de prévalence du SIDA est assez élevé. J'aimerais que vous suiviez ce reportage de Paula Munanga depuis Kasumbalesa.
D'après M. Guilin Kasweka, l'un des participants, cette formation leur permet d'acquérir des méthodes pour le dépistage volontaire. La population de Kasumbalesa est d'ailleurs favorable pour ce dépistage. Déjà, certains habitants se font enregistrer. Comment les participants à cette formation vont-ils s'y prendre sur le terrain? Guilin Kasweka.
Nous allons après quoi tester la population de Kasumbalesa volontairement et de manière à avoir le minimum de malades dans cette cité de prendre en charge après.
La cité de Kasumbalesa étant la porte d'entrée du Katanga pour les pays de l'Afrique australe. Il est de l'avantage de la population à pouvoir se faire dépister. Chacun a le droit de connaître son statut sérologique. Cela pourra lui permettre de vivre plus longtemps, comme le précise M. Stanley Kanyinda, un autre participant.
Je peux trouver une personne, je lui pose d'abord la question, je lui fais voir que ce n'est pas bon de vivre ignorant de son statut sérologique. Donc je vais amener la personne à comprendre vraiment qu'il est très important de connaître son statut sérologique. Parce que en connaissant ça, c'est bon et c'est intéressant que la personne soit vivant à vie à sida, de se préserver.
Déjà sur terrain, une trentaine de pères éducateurs formés auparavant sillonnent rue et avenue de Kasumbalesa. Ils visitent différents milieux comme les marchés, les boutiques et magasins, les écoles, les bureaux, les maisons de tolérance pour sensibiliser la population sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Alain Ilunga est journaliste à la cité frontalière.
La majorité de la population sensibilisée reçoit paisiblement le père éducateur qui leur donne le préservatif ainsi que les cartes de conseil de dépistage volontaire en attendant le test qui commence avec l'issue de cette session de formation.
L'ONG Ecosida qui organise ce séminaire a payé des kits pour la sensibilisation et les travaux de dépistage. C'est notamment des vidéos, des frigos, des seringues, des cartes qui permettent à la population à se faire dépister, des dépliants et autres matériels. Pourquoi alors le choix de Kasumbalesa? La réponse avec M. David Kaozi, il est le secrétaire rapporteur de l'ONG Ecosida.
C'est à passer à la frontière avec la Zambie. Alors il y a beaucoup d'entrées. C'est partisans de l'Afrique australe. Il y a aussi beaucoup de ceux de la RDC qui vont au niveau de l'Afrique australe aussi, ce qui fait que c'est une région à haut risque, là où nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de cas de professionnels de sexe.
D'après le médecin chef du centre de santé de Kasumbalesa, près de 7% de la population de Kasumbalesa est séropositif. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Voilà, vous avez tous suivi ce reportage de Paula Munanga depuis Kasumbalesa. Docteur José, vous avez également suivi ce reportage de notre confrère. Votre réaction à ce sujet, parce que là, il y a quand même un nombre important, 7%, c'est pas moindre, hein, de la population atteinte du VIH, c'est quand même important. Alors, votre réaction à ce sujet?
Ah oui, je crois que c'est l'une des stratégies vraiment à mettre en place, parce que c'est clair, hein, en termes de prévalence. Il y a l'axe Lubumbashi Kasumbalesa qui semble être en avant-plan avec une prévalence de 7%. Ça veut dire que 7 personnes sur 100 dans cette cité-là aurait le virus du VIH dans les sangs. Mmh. Donc, comme ils procèdent là, je crois que c'est la meilleure façon de faire. En communication interpersonnelle, en petits groupes, on discute et on intègre. Je crois que c'est la
sensibilisation, c'est bien, mais l'utilisation de certains moyens comme le préservatif pour éviter d'avoir le sida, c'est aussi bien. Et là, je ne sais pas si la population a vraiment accès au préservatif.
Et donc mon dernier passage à Kasumbalesa remonte d'un certain temps. Je crois que des efforts maintenant sont faits par rapport au rapport que nous envoie la coordination provinciale Katanga pour voir sur cet axe-là beaucoup de préservatifs avec les camionneurs et tout ce monde qui vient de la Zambie, l'axe Zimbabwe.
Mais l'idéal serait de distribuer ces préservatifs gratuitement, hein, de mettre à la portée de tout le monde.
De mettre à la portée de tout le monde, pas forcément de distribuer, parce que la gratuité est une notion confuse, hein, donc même dans l'interprétation ou l'intégration de ce que vous voulez faire, quoi. Mm. Faites comme ceux qui achètent la cigarette ou la bière, donc on doit sentir un petit effort par rapport aux gains que vous voulez tirer, vous.
Docteur José, si vous le permettez, j'aimerais donner la parole à tous ces gens, à tous ces auditeurs qui nous ont écrit partout au Congo, notamment Nathalie, c'est Monsieur Nathalie, ce que dis-je, qui nous a écrit depuis le Bas-Congo et qui dit « Pour éviter le VIH, je pense que le préservatif est l'idéal. » Et l'idéal remède, autrement dit, c'est donc la prévention contre le VIH-SIDA. John Dimanja, depuis Bounia, nous dit « Pourquoi parlons-nous toujours des PVV, autrement dit des personnes vivant avec le VIH, et non des personnes guéries de cette maladie? Nous parlons toujours négativement du sida. Pourquoi ?» Je crois que vous pourriez répondre à cet auditeur John Dimanja depuis Bounia tout à l'heure. Nous avons aussi une question qui nous vient d'ailleurs. Il n'a pas dit malheureusement où il nous appelait, s'il l'a dit depuis Isiro. Il s'appelle Simon Sambala. Et il nous dit « Ma question est de savoir, est-ce qu'une personne atteinte du sida peut aussi mettre au monde ?» Vous avez répondu à cette question. Vous avez dit que si la personne est bien encadrée médicalement, c'est possible. Et puis, combien de temps une personne nouvellement contaminée manifeste les premiers signes? Donc, après combien de temps? Il faut éduquer les gens, dit-il, dès l'enfance. Et comment être atteint? En fait, il aimerait savoir comment on est atteint, finalement, du sida. Je crois que vous allez éclaircir Papy à ce sujet. Lexu nous suit depuis Lubumbashi et réagit. Il dit, ne trouvez-vous pas que le préservatif n'est pas un des critères pour empêcher le sida parce qu'il peut s'éclater pendant l'acte sexuel? Une question aussi, je crois, intéressante. Et vous êtes bien placé, docteur José, pour répondre à cette question. Madame Christine, qui nous suit depuis Ngalima, ici à Kinshasa, aimerait savoir si le résultat donné aux femmes enceintes après dépistage, c'est-à-dire dès la maternité, est vrai. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela et que vous êtes bien placé pour répondre à la question de Madame Christine. On va terminer par deux ou trois questions, notamment de José. Un couple PVV, nous dit-il, est-ce qu'il peut donner son sang, c'est-à-dire s'ils sont d'un même groupe sanguin, au cas où quelqu'un est malade? Ça, c'est Makassi qui nous pose la question depuis Kisangani. Deux ou trois questions, les dernières, c'est dommage, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, et malheureusement, comme toujours, je ne peux lire toutes les questions qui arrivent dans ce studio, vraiment, pardonnez-moi. Je vais lire juste deux ou trois questions, les dernières, notamment de Martin, qui nous suit depuis Bukavu, Ouzaliwa Martin, qui dit « Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour empêcher à ce que les forces négatives de propager le sida en violant ?» Donc lui aimerait savoir quelles sont les dispositions prises pour empêcher justement les personnes qui ont l'habitude de violer les femmes et de contaminer ces femmes-là du sida. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement à cet effet ? Samy qui aimerait savoir si le préservatif est à la portée de tous, c'est-à-dire des mariés pour espacer les naissances. Et enfin, on termine avec Louise qui dit « J'aimerais savoir pourquoi nos préservatifs masculins sont si fragiles. » Parce que dans d'autres pays du monde, qui utilisent également le préservatif, curieusement, ça a l'air d'être beaucoup plus solide. Donc ça, c'est la question de Louise, docteur José. Vous êtes bien placé pour répondre à toutes ces questions. En gros, qu'est-ce que vous diriez à tous ces auditeurs qui ont réagi?
Ah oui, d'abord, merci à eux parce qu'ils sont très, très intéressés par cette pandémie qui nous continue à poser beaucoup de problèmes. Alors, rapidement d'abord, pour la prévention, je crois que nous martelons encore, c'est l'ABCD, A comme abstinence, B comme bonne fidélité, donc l'homme fidèle à la femme, et femme fidèle à l'homme, C comme condom, on revient sur ça tout à l'heure, et D comme dépistage volontaire. Mais à propos du condom, que mon frère apprenne à savoir que le condom, c'est un outil humain, comme tout outil humain, il n'est jamais parfait, sinon c'est Dieu lui-même. Donc même l'avion qui est le moyen de transport le plus sûr arrive à connaître des problèmes. Donc par rapport au préservatif aussi, il peut éclater. Ça, c'est l'une des faiblesses de la trouvaille humaine.
Rapidement.
Donc, à côté, les nôtres s'éclatent vite. C'est probablement un problème de conservation. Hein, donc, il y a tout un conditionnement autour de ça, comme tout autre...
Mais il faut être précis hein, sur les termes, parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sait ce que c'est qu'un condom. C'est toujours bien d'être encore plus précis, hein, docteur José. Un donc, condom, c'est
un
quoi?
Un condom, comment vous appelez? Capote, préservatif.
Voilà.
Donc, dit, si les nôtres se déchirent, ça c'est encore discutable, parce que ce n'est pas forcément hyper démontré. Mais peut-être dans son coin, je crois que, ou soit on l'expose sous le soleil, hein, c'est, ou mal gardé, ou périmé. Donc, il doit toujours faire très attention... quand il achète pour voir la date de péremption, si ça...
Beaucoup
ça,
ne font pas attention. Est-ce que réellement il y a une date de péremption sur les préservatifs?
Clairement, clairement écrite.
Et l'idéal serait d'acheter le préservatif dans une pharmacie, hein?
Oui, donc...
C'est dans la rue, parce qu'on les vend également dans la rue.
Dans la rue. Donc, éviter vraiment trop exposé au soleil et tout là. Donc, il y a des conditions de conservation, donc en principe. Donc, ça aussi, ça fausse...
Et la dernière réponse que vous donneriez à ce dernier auditeur qui a réagi, c'est quoi? C'est quoi exactement, docteur José?
Donc, pourquoi nous parlons toujours des PVV et non des personnes guéries?
Est-ce que réellement, il y a eu des personnes guéries d'ici là?
C'est la question que je me pose. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Donc, je ne risquerai pas de parler de personnes guéries.
Ok. Docteur José, on a beaucoup à dire aujourd'hui. Malheureusement, on peut tout dire hein, en une seule émission, ainsi que vous. Couple Bongo, vous avez eu à tout à l'heure à témoigner hein, devant tout le monde, sans gêne. C'est courageux de votre part. Alors, pour terminer, là, je m'adresse directement à M. Bongo. Que diriez-vous à toutes ces personnes qui sont également atteintes du VIH, du virus aujourd'hui, mais qui se cachent encore et qui hésitent à en parler à haute voix?
Oui, sincèrement, ces personnes-là ont intérêt à se montrer et aller vers les centres de prise en charge médicale et à vivre positivement. Parce que lorsqu'on se cache, s'entraîne vers la mort. C'est l'auto-stigmatisation. C'est la même chose parce que la stigmatisation est à deux niveaux. L'auto-stigmatisation, on te montre, enfin, tu te caches. Et en se cachant, il y a des implications psychologiques très importantes. Je sais qu'au début, de la maladie, lorsqu'on vient de se faire dépister, ça pose problème, surtout de notre temps. Mais maintenant, il y a beaucoup de conseillers qui peuvent faire qu'on se remette assez rapidement. Et puis, il y a des salons d'échange et de solidarité, comme notre ONG. Bon, Il faut qu'ils se montrent, qu'ils soient courageux, il n'y a pas de problème.
Et maman Bongo, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Tu as dit que les mamans sont souvent gênées, et les mamans, entre elles sont parfois aussi méchantes. Est-ce que, auditeur, surtout, maman,
Pousuki babimi bakoza bango en charge pe bakokoma malamu ndenge biso tokomi.
C'est-à-dire que ba mama bazara songi, ba mama bazara on sait que les mamans sont souvent méchantes entre elles.